Bonjour à tous. Merci d'être là en si grand nombre. Ça fait chaud au cœur. Le sujet d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous le connaissent, certains ne le connaissent pas. C'est un show d'archives destiné à montrer les archives personnelles d'un auteur de la contre-culture québécoise qui s'appelle Emmanuel Koch. Cette présentation-là, elle a deux objectifs principaux. Je voudrais, par cette présentation-là, donner une certaine lecture de l'œuvre d'Emmanuel Koch, articulée autour de deux objectifs. Premièrement, il s'agit surtout d'une invitation à consulter ces archives-là, à venir consulter ce qu'elles contiennent et surtout à se rendre compte de la richesse et du foisonnement que recèle cette œuvre-là. Et cette présentation a un deuxième objectif qui est de fournir des pistes de réflexion pour répondre à deux questions principales. La première étant en quoi l'œuvre d'Emmanuel Koch s'intègre-t-elle à la période contre-culturelle telle qu'on l'étudie de nos jours à l'université? Et surtout, que dit cette œuvre-là de la période contre-culturelle? Certains d'entre vous ne sont pas sans savoir que la contre-culture en ce moment connaît un certain regain d'intérêt au milieu dans les dernières années au sein des études académiques. Et donc, il apparaît à mes yeux pertinent de s'attarder à des figures et des œuvres qui sont à même d'enrichir la réflexion qui prend la contre-culture pour sujet. Pour vous dire un peu comment ça va s'articuler, après un temps, je commençais par faire la présentation, faire un survol des archives. Articulé autour d'une certaine analyse de l'œuvre. Par la suite, j'ai sorti quelques éléments donc des archives personnelles que vous pourrez venir consulter. Et donc après la présentation, si jamais vous avez des questions, l'espace va être ouvert à la discussion. Donc petit survol biographique. Parce qu'il faut bien le présenter. Emmanuel Koch est né en 1945 à Nantes. Son père, Jean-Jacques Koch, est le fils d'un ancien consul originaire des États-Unis et il est professeur en philosophie. Sa mère, Odette Thomas, est médecin et intendante des hôpitaux à Nantes. Elle se suicide alors que Koch a à peine 2 ans et cette mort va exercer une influence considérable et hautement perceptible sur l'œuvre d'Emmanuel Koch, si bien on ne peut pas étudier cette œuvre-là sans passer par les questions de mort et du rapport à l'absence de la figure maternelle. Dès l'âge de 17 ans, Emmanuel Koch fait ses premières armes dans le milieu du cinéma en réalisant des courts-métrages, parmi lesquels figurent, je vous en cite quelques-uns, Quitte ou double, Quitte, Situation 5, Broken Dove, qui sera d'ailleurs repris sous forme de roman et de nouvelles, que vous pourrez consulter éventuellement ici, Hors d'œuvre, et enfin Musica, dont la bande sonore a été composée par Michel Legrand et qui connaîtra une certaine postérité en France et au Québec. C'est d'ailleurs dans le cadre de la réalisation de ce dernier court-métrage que Koch rencontre Nathalie Boivin, avec qui il se marie, et part pour le Québec en 1965. Une fois en sol québécois, Emmanuel Koch peine un peu à trouver du travail et sur le plan de la rédaction, ça cabotine encore un peu. Il faut attendre début 1967 pour que l'une de ses œuvres soit enfin connue du public. Il s'agit de la pièce Madame Sauce y était, qui sera montée au Petit Champlain à Québec. Il y tient lui-même un rôle, de même que Ginette Letondal, avec qui il entretiendra une relation plutôt tumultueuse. Elle avait précédemment joué dans le court-métrage Musica et elle enregistrera 6 chansons dans un micro-sillon en disque la même année. Koch réalise aussi, dans le cadre de l'Expo 67, un spectacle de jazz et de poésie sous la direction musicale de Walter Boudreau. Et toujours en 1900. Non, ça c'est fini pour 67. Les années suivantes, donc, vont être marquées par des entreprises dont certaines vont réussir, d'autres se solderont par un échec. Des tentatives donc de se faire publier. Et c'est dans ces années-là également qu'il va commencer une immersion progressive dans le milieu culturel québécois. Ainsi, il va faire apparaître une revue culturelle, Ciné-Jazz, que vous pourrez voir ici. Il voit certaines de ses pièces de radio-théâtre diffusées sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Il tient une chronique dans les pages culturelles du magazine 7 jours, fait des reportages pour le cahier Perspective de la presse et écrit pour le Petit Journal et le magazine Actualité. En 1971, son premier roman, Va voir où c'est si je suis, paraît aux éditions du jour et il remporte un bon accueil de la part de la critique. Dans une entrevue accordée à Réginald Martel de La Presse, on découvre dans cette entrevue-là les particularités de l'écriture kochienne, qui n'implique pas d'écrire, oui, d'écrire, mais de film-écrire. L'expression est d'Emmanuel Koch lui-même. En 1972, paraît Les manuscrits de la mer morte, pas les manuscrits, mais les manuscrits de la mer morte, portés donc par le même élan créatif qu'il y avait dans Va voir au ciel. Le début des années 70 est occupé aussi, puisqu'il participe au Festival international du film en Colombie, fait paraître son troisième roman, Love Story, ici, dont l'édition originale se trouve ici. Et se consacre à des projets dont beaucoup ne verront pas le jour, malheureusement, comme le roman et le projet de film Québec Love Super Story, un hommage au café L'Association, qui est un lieu fort de la contre-culture montréalaise, et la publication de ses poésies. En 1973, Koch part pour Auroville, en Inde, afin d'écrire un roman. J'en reviendrai plus tard sur ce projet-là. Et alors qu'il se baigne en bordure d'une plage du golfe du Bengale, Koch est tamé par une lame de fond et blessé et sera hospitalisé. Malheureusement, il mourra d'un œdème pulmonaire à la suite de mauvais soins. Son œuvre va passer un peu sous le radar de l'histoire littéraire québécoise, jusqu'à ce que ses romans, nouvelles et poésies, de même qu'une biographie, vont paraître chez Tête Première, Coup de tête et Poète de brousse en 2013 et 2014. Donc voilà pour le petit survol biographique. J'entrerai sans plus attendre dans l'œuvre elle-même, puisque c'est ce dont il est question dans ses archives. Donc, pour remettre en contexte, Koch nage dans le grand marasme, le grand foisonnement de la contre-culture littéraire au Québec. Il serait naturellement difficile de définir ce qu'est la contre-culture ici, ce serait beaucoup trop synthétique et assez peu représentatif. Signalons seulement quelques repères tout de même. Au Québec, la contre-culture ne se distingue pas vraiment des autres déclinaisons du mouvement ailleurs dans le monde. C'est un mouvement ambivalent, majoritairement internationaliste, pardon, qui se définit schématiquement comme pôle d'opposition à la culture dite officielle. Ce qui en fait quand même un petit problème, une problématique intéressante à tout le moins, parce que c'est un mouvement qui n'est pas unitaire, n'a pas de porte-parole et n'a pas de manifeste autoproclamé. Mais dans ces tendances, dans les études actuelles, et entre autres celles effectuées par Karim Larose dans son roman, dans son ouvrage La contre-culture au Québec, et dans le numéro 299 de la revue Liberté, Karim Larose met en lumière certaines tendances de la contre-culture, parmi lesquelles figure, je cite, le désir de créer un réseau d'informations parallèles, un autre mode de circulation des nouvelles et des œuvres d'art. Ce contrisme caractéristique des tendances contre-culturelles se retrouve aussi dans l'apparent apolitisme du mouvement. Cela répond d'une philosophie qui cherche à se soustraire au risque d'aliénation généralisée par la culture et les médias de masse qui sont entérinés par l'institution. Mais quel est le rapport de l'œuvre d'Emmanuel Koch à l'institution littéraire et à l'institution médiatique? En examinant la place qu'il occupe dans l'histoire de la contre-culture au Québec, on s'aperçoit que cette place-là n'est pas univoque. Koch, dans son rapport à l'institution, ne prend qu'une part relativement modeste à la mouvance contriste de son époque. Tout dans sa démarche indique au contraire une tentative de se rapprocher des institutions bien établies. Va voir aussi si j'y suis et Les manuscrits de la mer morte, ses deux principaux romans, sont publiés dans la collection Les romanciers du jour aux éditions du jour. Après que Koch ait tenté d'envoyer ses textes chez Grasset, Seuil, Minuit et Julliard, qui, aux dernières nouvelles, ne sont pas les parangons de la contre-culture, encore moins québécoise. Musica, son court-métrage réalisé en France, sera présenté en première de Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard au cinéma Élysée en 1967. Pendant 6 semaines. Oui, tout à fait. assez longtemps, merci. Et quant à ses activités de journaliste et de scénariste, on en voit le fruit non pas dans les revues emblématiques de l'époque comme Mémise ou QQ, mais chez les grands médias de masse. Sa prose journalistique, par exemple, brille dans le cahier Perspective du journal La Presse, et ses pièces de radio-théâtre sont diffusées à la radio de Radio-Canada. Même à l'échelle de sa courte vie, on ne peut pas parler vraiment d'un passage marginal par l'institution dans sa démarche créatrice. En ce qui concerne ses textes de radio-théâtre, il soumet des textes sur une assez longue période, en 1968 et 1973, parmi lesquels figurent, je vous en cite quelques-uns, « La photo du siècle »,« Reportage en direct chez Brandy Dynamite et Chérie Delicatessen »,« La rescapeuse »,« La dame transparente » et la nouvelle « Les pieds sur un disque » de Marie Laforêt, dont je reparlerai tout à l'heure, j'en citerai même un extrait. Tous ces textes, donc, se retrouvent dans le fonds d'archives. Par ailleurs, non seulement est-il attaché au réseau de diffusion de masse, mais il examine minutieusement la manière dont ces livres sont distribués dans le réseau des librairies du Québec. C'est anecdotique, mais il a réalisé lui-même une enquête sur la distribution de Vavard Wessel, si j'y suis. Parce qu'en 1972, la distribution du roman connaît quelques défauts et la maison d'édition n'est pas en mesure de lui fournir les informations dont il a besoin. Donc, il va effectuer lui-même son enquête. Donc, il est allé chercher non seulement dans les librairies à l'intérieur de Montréal, mais également à l'extérieur. Il va même se rendre jusqu'à Joliette et Renaud-Bré, dans le temps où Renaud-Bré était une librairie. Tout ça pour dire donc que son souci d'être lu dépasse les seules frontières de l'île de Montréal. Sa démarche donc s'inscrit très loin de ce que Karim Larose appelle un désir utopique de marginalité qui caractérise les communautés contre-culturelles. Coq, au contraire, un souci de visibilité. Donc, si Emmanuel Coq est contre-culturel, en quoi il l'est? Certainement pas par sa démarche. Au contraire, il se montre plutôt critique de certains traits du mode de vie contre-culturel. Il n'hésite pas d'ailleurs à se distancer de certains de ses lieux communs, comme par exemple la figure du hippie, qui ne suscite pas chez lui beaucoup de tendresse. Je vous cite un passage de son roman « L'homme avatar d'Auroville », le projet qu'il caressait d'écrire alors qu'il était en Inde. « Au lieu de m'écœurer, de m'ensevelir petit à petit dans une sombre paranoïa négative, je me suis dit, ou plutôt l'un de mes doubles m'a dit, qu'après tout, chaque être recherche sa place au soleil, même un prix Nobel, même une putain, et qu'il m'était plus profitable de ne pas réduire mon espace à la taille de ce monde, mais de l'amplifier au point de devenir la cinquième dimension, la quatrième étant le temps, loin des hippies, devenus consommateurs et consommés, loin de l'actuelle décadence qui ressemble à la décadence romaine, les empereurs étant devenus cosmonautes, et d'ignorer l'ivresse ou la tristesse des supervilles, des grands discours, des concours sportifs, des boîtes de nuit, des femmes de luxe, du dollar, des gadgets, des informations truquées par une omniprésence erratique. » Donc, ce fragment de texte-là constitue une partie de l'introduction du texte « L'homme avatar d'Auroville ». Et à l'intérieur, donc, on le voit bien, Coq fait des hippies, des acteurs de ce qu'il voit comme l'actuelle décadence de l'humanité, assimilable à la décadence de Rome qui, comme on sait, a mis fin à son empire. L'apparition d'un homme nouveau, l'atteinte d'une unité humaine, d'une spiritualité humaine qui passe par... l'unité humaine à l'intérieur de soi-même, ne passe donc pas par le mode de vie des hippies, selon lui, devenus consommateurs et consommés. Un peu de Régent du Charme, là aussi, d'ailleurs. En ce sens, on pourrait presque dire qu'il anticipe déjà les critiques qu'on fera en 1975 à l'occasion de la rencontre internationale de la contre-culture au sujet de la récupération commerciale du mouvement. Naturellement, l'homme avatar ne se résume pas à ça. Il traite aussi... à l'intérieur donc, de ce projet-là se retrouvent certaines thématiques chères aux acteurs de la contre-culture. J'y reviendrai un peu plus tard en contextualisant l'écriture de ce texte. Dans son rapport à l'institution, donc, Emmanuel Coq se démarque de ses camarades contemporains comme Paul Chamberlain ou Denis Vanier. Il n'est certainement pas le seul à entretenir cette ambivalence. Néanmoins, dans la lente découverte de la période contre-culturelle au Québec, redécouvrir Emmanuel Coq permet de démystifier ce rapport à l'institution et d'illustrer combien l'utopie de la marginalité est toujours en tension dès lors qu'il s'agit de concilier l'ambition d'être lu et la consolidation des réseaux alternatifs entretenus par les communautés littéraires. Parler de contre-culture chez Emmanuel Coq, c'est d'abord et avant tout parler d'écriture. d'une écriture qui, en regard des institutions qui l'accueillent, fait office de mouton noir. En examinant ces œuvres, on constate qu'elles recèlent une critique de ces mêmes institutions, bien qu'elles cherchent à s'y tailler une place. On peut analyser l'incursion d'Emmanuel Coq dans le réseau culturel officiel comme une tentative de le parasiter. Son contrisme ne se manifeste donc pas en marge de la culture officielle, mais à l'intérieur de celle-ci, dans ses mailles, par l'intermédiaire de ses infrastructures de diffusion. Il se manifeste aussi dans ses sujets même de ses radiothéâtres et de ses fictions. Mentionnons quelques exemples. La nouvelle « Les pieds sur un disque de Marie Laforêt », originalement diffusée sur les ondes de Radio-Canada et reprise dans le recueil « Sex-fiction », raconte les déboires d'un écrivain ayant écrit un zoman impubliable. Il attend désespérément une réponse de la toute dernière maison d'édition à laquelle il a envoyé son manuscrit, « Les malédictions du taureau », tout en dodelinant autour de son revolver. Son zomancier, Serge Marcus, est la figure par laquelle Emmanuel Coq écorche à la fois la culture underground et la culture de masse. Je vous cite un passage de la version parue dans Sex-fiction. Serge Marcus est l'un des nombreux éléments de ce qu'il convient d'appeler l'underground artistique. C'est un fan de la faune le fun. Depuis qu'il est né, il a 25 ans. Il traîne depuis toujours ses guêtres morbides dans les bas-fonds sordides de la non-compréhension. Ce matin, une belle actrice a oublié ses baisers brevetés d'une énergie sectaire sur les cicatrices de Serge Marcus. Il n'est plus de ce monde depuis 3 mois qu'il a remis le rédascript d'un zoman aux malédictions du taureau, maison fort prisée des critiques professionnelles. Son zoman s'appelle « Les pieds sur un disque de Marie Laforêt » et toutes les autres maisons l'ont déjà refusé, vu qu'il est parfumé aux eaux fortes plutôt qu'à l'eau de rose, et qu'en littérature comme en digestion, il n'est pas facile de faire avaler des gros morceaux. Il a écrit un zoman très violent, il le sait, et il l'a dégoisé dans un beau langage qui n'atteindra le lecteur moyen, cet être non identifiable aussi difficile à imaginer qu'une soucoupe volante, que si les sorts ne sont pas contraires. Donc, ça illustre quand même assez bien sa créativité et la critique intérieure donc de la difficulté d'être publié quand on est dans l'underground artistique. L'autre exemple, donc, tiré d'un autre de ses textes de radio-théâtre, reportage en direct chez Brandy Dynamite et Chérie Delicatessen. Dans ce texte-là, donc, Coq tourne en dérision le genre du reportage radiophonique en mettant en scène un reporter drogué qui se fait rappeler à l'ordre par son patron en direct et qui finira par se faire voler le micro par des extraterrestres qui enverront Montréal. Dans une autre pièce, intitulée « Ma mère, c'est la lune, mais c'est son problème », très créatif sur ces titres. J'aime beaucoup ces titres. Donc, dans ce texte-là, Coq pousse l'irrévérence jusqu'à se mettre lui-même en scène dans l'histoire. Il est un écrivain invité par une émission de radio culturelle qu'il finira par prendre d'assaut. Vers la fin de la pièce, le personnage Coq renvoie le réalisateur, critique et tourne en dérision l'émission et révèle que pendant ce temps, il était copropriétaire de la station de radio. On vous paie bien ici. Nicole, je ne comprends pas. On doit très bien vous payer. Si vous ne pouvez pas me dire ce qu'est un splashagimètre, Nicole. Vous le savez, vous qui savez tout? Non, mais c'est normal, on ne m'a pas payé pour venir ici répondre à vos questions. Nicole, cher radio-auditeur, oui, je sais, la censure. Ah, M. Jacques Marbeuf, le réalisateur de cette émission, si on peut appeler ce machin une émission, s'inquiète maladivement du degré de compréhension émis par l'auditeur moyen. Moi, je peux tout dire, car ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis copropriétaire de CQFD, la station de radio. Et si je peux me permettre d'en placer une, et je suis bien placé pour me le permettre, eh bien, je tiens à informer la population qu'à dater de cet instant, M. Jacques Marbeuf pourra faire le tour des autres stations pour se trouver un nouvel emploi, car je le renvoie pour son incompétence et sa fâcheuse tendance à prendre les gens pour des imbéciles. Donc, ce genre de renversement pris au pied de la lettre peut sembler naïf ou, à un certain point de vue, un peu facile. Garde à mort pour moi que lorsqu'on le contextualise, l'intrigue du renvoi d'un réalisateur d'une émission par son invité dans une pièce de radio-théâtre diffusée sur les ondes de la radio nationale, c'est quand même d'une drôle de désinvolture. En ce qui a trait donc aux thématiques artistiques et à la tentative de subversion qui les sous-tendent, les œuvres d'Emmanuel Coq ne sont pas entièrement détachées des tendances contre-culturelles. Mais plutôt que d'opter pour l'élaboration d'un réseau alternatif qui adopterait le parti de la marginalité, il préfère changer les institutions déjà en présence. Sa démarche tend vers une forme de réforme de l'expression à laquelle, selon lui, les maisons d'édition littéraire et les boîtes de production cinématographique devraient être sensibles. D'ailleurs, Cox s'est longtemps exprimé sur la manière de faire du cinéma au Québec, et ses opinions sur le sujet prônent une ouverture sur le monde et sur les disciplines artistiques connexes qui, on le verra un peu plus tard, ne sont pas étrangères à sa conception de ce qu'il appelle la filmécriture. À ce sujet, je voudrais vous proposer un extrait de son passage à l'émission de radio Le Violon d'Ingres, diffusée le 30 juin 1973, dans laquelle il s'exprime à ce sujet. Est-ce que ça marche?
Et qu'est-ce que le cinéma représente pour vous?
Maintenant, c'est un peu mélangé dans ma tête parce que je m'arrange pour... au début, je me suis arrangé pour... Puis finalement, c'est devenu automatique, plus ou moins. J'essaye d'écrire en images. Alors, finalement, je me demande si la littérature... On n'est pas plus libre en littérature qu'en cinéma. Parce qu'en cinéma, il y a des implications financières. On dépend d'un producteur. On est obligé de faire des concessions... Alors que finalement, en écrivain, je pense qu'il est plus libre.
Oui, parce que vous avez le paysage, la mesure de votre imagination.
Et puis le film, c'est le lecteur qui le réalise.
Exactement. Mais quand même, le cinéma actuellement est un moyen d'expression très, 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 très actuel, je pense.
Oui, mais il y a trop d'implications commerciales la plupart du temps. Même le cinéma québécois, qui était très bien parti, surtout dans les années 60-70, là, ça commence à devenir plein de clichés, puis plein de clichés qui exploitent le folklore pour épater un peu le marché étranger. Ça, c'est un danger, ça.
Qu'est-ce qui manque, selon vous, au cinéma québécois, manque de son évolution?
Il manque quelqu'un qui soit complètement fou, comme un Fellini, ou j'aime pas faire des comparaisons, c'est complètement stupide. Je fais pas de comparaison, mais je veux dire quelqu'un dans le genre de Fellini. Ou... Moi, je connais un gars qui s'appelle Claude Péloquin. Si on lui donnait les moyens de faire un long métrage, il ferait un truc extraordinaire. Mais on ne lui donne pas les moyens.
Dont on n'a entendu pas.
Oui, quand tu fais quelque chose...
Tu fais pas à moitié.
Non.
Des paroles qui revêtent quand même une certaine actualité, une certaine folie dans le cinéma au Québec, je pense que c'est toujours d'actualité. Et donc, intéressant aussi d'aller chercher, de concilier dans le fond les archives du fonds personnel avec ces archives audio-là. Ça fait pas partie du fonds d'archives. Le fonds d'archives personnel, ça fait partie du fonds d'archives Centre d'archives Gaston Miron. Donc, l'idée, c'est de créer un dialogue un peu entre les deux pour donner une idée de son œuvre. On l'a entendu s'exprimer donc sur sa perspective sur le cinéma au Québec. Cette ouverture, donc, dans ce cas-ci, donc, il l'a mentionné au cinéma italien par la figure de Fellini ou par proposer à Claude Péloquin de faire un long métrage. Ça aurait été intéressant de voir ça d'ailleurs. Cette ouverture, donc, c'est pas sans rappeler la perspective, l'ouverture à l'internationalisme qui est au cœur du discours contre-culturel. Vers la fin de sa vie, Emmanuel Koch manifeste effectivement des soucis donc pour ces tendances-là propres à la période contre-culturelle. Et un autre de ces exemples-là, c'est le souci de la révolution intérieure de l'être humain. On appelle un peu le mythe de l'homme nouveau, la réforme de l'être humain loin de tout le matérialisme et le matérialisme ambiant, disons. De cette préoccupation, donc, va naître sa toute dernière œuvre, dont on a déjà parlé un peu plus tôt, rédigée donc en Inde en 1973, L'Homme Avatar d'Auroville. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est à la fin des années 60 qu'un couple spirituel indien, Mira Alfasa et Sri Aurobindo, décide de fonder une ville expérimentale, une ville utopique et autosuffisante, destinée à accomplir ce qu'ils appellent l'unité humaine. Ce sera Auroville, donc une ville située à une dizaine de kilomètres au nord de Pondichéry. L'Homme Avatar d'Auroville, situé à mi-chemin entre le récit et l'essai, se présente comme une réflexion sur le projet d'Auroville et un plaidoyer contre ce que Emmanuel Koch appelle les parasites de l'esprit qui polluent l'être humain. Les premières pages du manuscrit abordent des sujets qui sont autant de pierres angulaires du discours contre-culturel, comme les dangers du matérialisme, de la technocratie et de la publicité, la nécessaire évolution de l'être humain par l'en dedans, donc il y a d'ailleurs tout un chapitre qui est consacré à ça, et le besoin de s'ouvrir à une force intérieure que Koch définit comme, je vous cite l'extrait, un laboratoire pour cet autre humain je cite, qui est la quête subconsciente d'une jeunesse de plus en plus désespérée sous le maquillage délébile et débile de modes éphémères. On peut en déduire en conclusion donc que la position d'Emmanuel Koch par rapport aux tendances du mouvement contre-culturel et à l'appartenance aux institutions représentant la culture dite officielle n'est pas aussi tranchée que celle de certains de ses contemporains. Sa démarche nous rappelle seulement que, dans le marasme de production et de manifestations artistiques que fut la contre-culture au Québec, rien n'est homogène, puisqu'une certaine individualité prévaut dans la manière d'exister. Et ce, aussi bien dans la sphère de la vie réelle que dans la sphère artistique. L'étude des textes du Fonds d'archives nous apprend néanmoins que, malgré cette ambivalence, l'appartenance de Koch à la mouvance contre-culturelle ne fait pas de doute, et qu'elle s'appuie principalement sur une écriture qui déploie sa force par le truchement d'une jonglerie langagière empreinte de lucidité. Pour illustrer ceci, je vais revenir quelques années en arrière et vous citer un passage de « La tentation d'exister » d'Émile Cioran, où il dit ceci. « Il nous reste à corrompre tous les genres, à les pousser vers des extrémités qui les nient, à défaire ce qui fut merveilleusement fait. Si dans cette entreprise nous mettons quelques soucis de perfection, peut-être réussirons-nous à créer un nouveau type de vandalisme. » Dans cet extrait, Cioran en appelle à ce qu'il appelle... On appelle donc à une fin du style. Il s'insurge en fait contre ce souci des grandes écoles de pensée littéraire qui se sont corrompues selon lui dans une idéologie de la prétention stylistique qui n'aboutit qu'à une pléthore de livres, selon lui, mal écrits ou au mieux insignifiants. L'histoire de la contre-culture nous apprend que l'art contre-culturel se distingue par une audace formelle et performative qui pousse effectivement la frontière des genres depuis l'intérieur. Cette audace est l'une des manières par lesquelles les tenants de la contre-culture s'opposent à la culture dite officielle. C'est cela même qui, paradoxalement, font de leurs textes, beaucoup de leurs textes malheureusement presque illisibles d'aujourd'hui. Ils sont un peu victimes de leur propre marginalité. Chez Emmanuel Koch, on ne peut pas passer sous silence une démarche créatrice, qui se traduit par une forme particulière de vandalisme. Une vandalisme, dans le fond, qui se décline sous la forme d'une véritable occupation du territoire de la langue. Ainsi, l'auteur de Vavoiselle, si j'y suis, ne dit-il pas qu'il écrit, mais qu'il filme écrit. En effet, son écriture se prête mal à la systématisation. C'est une écriture qui jongle avec la langue, dont on doit faire l'expérience, comme on regarde un film, pour en saisir les images. De passage à l'émission Carnet Arts et Lettres, animé par Jean-Claude Germain, Emmanuel Koch va décrire de manière très synthétique son style de la manière suivante.
D'ailleurs, votre œuvre paraît très inspirée par cinéma, non seulement comme sujet, mais comme composition du livre.
Toute une technique, oui, n'est-ce pas? Ça peut paraître prétentieux, mais enfin, ça ne l'est pas, j'espère. J'essaye d'écrire en images. J'essaye. C'est impossible, enfin. Mais enfin, c'est ce qu'on retient aussi de votre livre. C'est l'intérêt qu'il présente. Parce que, un peu comme dans le précédent, je crois, le style, le vocabulaire que vous utilisez sont un peu comme la texture ou la couleur dans les tableaux des peintres modernes. Maintenant, le sujet des tableaux, ça devient la texture ou la couleur ou la vibration de la couleur. Est-ce que vous ne faites pas un peu la même chose avec le vocabulaire ou le style?
Ça, c'est au niveau de la forme, mais je m'arrange pour que le fond soit solide quand même, parce que sans ça, on risque de tomber dans un côté superficiel. C'est-à-dire que je joue avec les mots pour provoquer des images au niveau du cerveau du lecteur ou de la lectrice. Mais en même temps, il y a un fond qui est très solide. Ce que j'essaye de faire, c'est d'amuser les gens tout en leur apportant quelque chose d'autre.
Donc, dans cet extrait-là, il s'exprimait sur le style qu'il adopte dans son deuxième roman, Les manuscrits de la mer morte, dont l'écriture ressemble à peu de choses près à celle du premier, Va voir aussi si je suis. Donc, écrire en images, qu'est-ce que c'est? Écrire en images, donc, pour amuser les gens, tout en leur apportant quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre reste très flou, mais en faisant l'expérience de l'écriture d'Emmanuel Koch, on peut, il me semble, tout le moins, l'assimiler à un niveau de langage où ce dernier devient une forme de théâtre ludique. Koch manipule la langue, il crée des jeux de mots, travestit des mots ou des expressions, soit pour en subvertir le sens, soit pour en créer un nouveau. On le remarque dans ses romans, ce que Germain appelle la texture du langage est l'agent d'une résistance à toute forme de typologie romanesque. Koch pousse les extrémités du genre romanesque depuis le territoire de la langue, si bien que cette dernière devient un personnage à part entière. Il serait, bien évidemment, difficile de reproduire ici l'expérience de la lecture de la langue dans les romans, mais je citerai quand même quelques fragments. Entre autres, dans « Les manuscrits de la mare morte », le deuxième roman de son deuxième roman, où on a le personnage principal, qui s'appelle Dieuble, confusion de Dieu et Diable, dans une scène où il dîne avec ses comparses et mange du jambonneau de gabardine mariné en prison, tout en contemplant avec angoisse la reproduction du serment du jeu des paumés de Jacques-Louis David. Si bien dire que chez Koch, à peu près tout est permis. On peut éclater d'un regard sidérolytique. Il y a des invités de marque déposés. Les suicides réussissent même à se tromper de propriétaire. On est trop pollué pour être honnête. On frémit Jules Vernesquement. Et lorsqu'on écrit à des maisons d'édition, on signe tout en étant très littérature totalement vôtre. Inutile donc de préciser que non seulement la langue de Koch va vraiment aller chercher le côté ludique, donc comme un clown sur une scène de théâtre, mais est également pertinent de préciser que les romans de Koch sont également habités par des personnages qui sont tout aussi colorés. On l'a entendu tout à l'heure, pour lui, la question du style n'est pas autosuffisante. Elle va vraiment aller chercher un fond qui, lui aussi, est tangible. La langue, donc, fait corps avec l'intrigue. Elle surprend. Un simple jeu de mots peut avoir une incidence prodigieuse sur la diégèse. Les héros coquiens ne pourraient exister dans un univers porté par une forme mesurée, retenue, et surtout... Oups, excusez, c'était pas censé arriver. Les héros des romans de Koch ne pourraient pas vivre dans un univers porté par une langue un peu trop conventionnelle, et surtout politiquement correcte. Ce dépassement est nécessaire et se manifeste au niveau formel et au niveau de l'histoire. Si bien que la proximité, la symbiose qu'entretiennent forme et histoire deviennent fusionnelles. Film-écrire, écrire en images, c'est faire apparaître l'image à tous les niveaux. Le cas de figure le plus accompli de cette porosité entre forme et diégèse reste sans doute encore une fois Les manuscrits de la mare morte que Koch résume de cette manière à Jean-Claude Germain dans la même émission.
Emmanuel Koch, votre second roman s'intitule Les manuscrits de la mère morte. Non pas les manuscrits, mais le manuscrit, comme Emmanuel.
Oui, oui.
Le premier, c'est de voir au ciel qui suit. Est-ce que c'est le ciel qui vous inspire?
Non, je suis tombé sur terre.
Est-ce qu'il y a un lien entre le titre et votre sujet?
Entre le titre du deuxième?
Oui.
Non, je pense que je me suis fait avoir parce que j'ai été séduit par le titre que j'ai trouvé. Il n'existe pas tellement de lien entre le titre et le livre, si bizarre que ça puisse paraître.
Bon, alors, est-ce qu'on peut vous demander un peu ce qu'est
très laconique.
C'est l'histoire d'un créateur qui invente un personnage qui s'appelle Dieuble, D-I-E-B-L-E, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est moitié Dieu, moitié Diable. Et il s'aperçoit que ce personnage qu'il a cru inventer, finalement, c'est peut-être lui-même. Alors, c'est les aventures de ce personnage-là. À travers la trame d'un film en préparation.
En même temps, quand mon bonhomme se déplace, il y a des gens qui s'affairent autour de lui. Il y a tout le temps, ils appellent ça l'œuvre, un film qui tourne. C'est comme si vous êtes en train de dormir et puis vous vous réveillez le matin et puis il y a un caméraman qui est en train de vous filmer.
Ça finit un peu abruptement, mais le fait est que c'est un fait. Le personnage de les manuscrits, donc Dieuble, est également, devient un peu malgré lui, le personnage de la grande œuvre qu'il souhaite lui-même tourner. Il engage donc des caméras nains, parce qu'ils sont tout petits, pour le filmer, et sa vie devient alors l'œuvre elle-même. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture de ce roman-là, plus le lecteur donc avance dans le roman, plus donc le roman, l'œuvre s'écrit et filmé sous ses yeux, plus l'œuvre avance. C'est l'un des exemples les plus probants de la filmécriture. Filmécrire, c'est intégrer l'image à l'écriture. Une image qui n'est pas circonscrite par l'écriture, mais qui au contraire la complète. L'image n'est pas que mise en abîme dans la diégèse. Sa prééminence se lie aussi à l'intérieur des mots. L'image est la pierre angulaire de la poétique kochienne. Et c'est par elle, donc, que l'auteur vandalise le territoire de la langue pour mieux l'occuper. Une occupation qui, par ailleurs, n'est absolument pas gratuite. La filmécriture cherche, au contraire, à décupler le sens de la phrase, dans une dynamique où les mots appellent la lecture et l'interprétation du lecteur. Dans son entrevue accordée à Réginald Martel à l'apparition de « Va voir au ciel si j'y suis », il résume sa démarche ainsi. « Il faut que le sens de la phrase en suscite d'autres. » Il faudrait deux types de lecteurs, de lecture. La lecture de celui qui élimine l'environnement sensoriel et qui accepte d'être foqué là-dedans, puis la lecture de celui qui se dit qu'il y a un sens. J'ai voulu mettre un sens. Il faut que le lecteur me remette en question et qu'il se remette en question. Le jeu de la langue qui n'est pas un jeu de la langue dada ou gratuit. C'est vraiment un jeu, un côté ludique qui remet en question à la fois l'écriture et le lecteur. La dimension ludique, donc, de la filmécriture ne se manifeste pas qu'à l'intérieur même du genre. Elle est remarquable aussi dans sa manière, dans la manière dont l'auteur nomme le genre lui-même. Ainsi, donc, le texte de la pièce de théâtre « Madame Société », celui donc qui va être diffusé sur les planches du Petit Champlain à Québec en 67, porte la désignation de pièce de cinéma ou film de théâtre. La désignation, donc, est toujours en tension, elle n'est absolument pas tranchée. De même, dans une version primitive de son roman Love Story, nommé alors Histrion Mandragore, le texte se présente comme un roman-film. Enfin, donc, le scénario du film que Koch avait prévu réaliser de Québec Love Superstory, qui était également un roman, n'est pas un script de long métrage, mais bien un script de long piétage. Donc, toujours encore une fois le côté ludique qui met toujours en tension la manière de nommer les œuvres. On constate donc que la filmécriture se manifeste à l'intérieur de ça également et qu'elle suppose une interdépendance de l'image et de l'écriture qui entend jusqu'à altérer la désignation même du genre littéraire. Cependant, et donc on l'a entendu s'exprimer à ce sujet-là tout à l'heure, Emmanuel Koch ne s'attarde pas uniquement à la question du style. Pour lui, le fond est aussi important. Le fond est vraiment la clé pour ne pas tomber dans une exploration trop superficielle de l'écriture. C'est pourquoi, malgré la fantasmagorie dont elles sont empreintes, ces romans et nouvelles ont une intrigue qui ne sont pas que prétexte à un exercice de style. L'effet escompté est-il perceptible? Est-elle victime de sa propre marginalité ou relève-t-elle encore l'épreuve de la visibilité? Voici une piste de réflexion. L'univers coquien s'actualise de nos jours surtout par ceux qui l'habitent, ses personnages. Koch n'est d'ailleurs pas étranger à une certaine tendance des auteurs de la contre-culture à privilégier ce que Frédéric Rondeau appelle l'expérience de l'éloignement, de la dispersion et de la solitude qui se dégage des écrits des auteurs liés à la contre-culture au Québec. On peut rassembler ces derniers autour de l'impression partagée de ne plus appartenir au présent, de ne plus se reconnaître dans le monde qui les entoure et d'être confronté à l'incertitude de l'avenir. Il est inutile de nier que l'œuvre d'Emmanuel Koch aborde de front certaines thématiques chères aux auteurs de la contre-culture littéraire. La solitude, le malheur, la perdition ne sont bien entendu pas l'apanage de la période contre-culturelle. Mais elle trouve une résonance particulière à une période, à une époque plutôt, où les auteurs décident d'éprouver, au sens de travailler, leur marginalité. Cela transparaît dans l'écriture. Un auteur, par exemple, comme Jean Basile, dans son roman « La jument des Mongols », fait déambuler ses personnages dans un Montréal de fête, une ville rassurante, ouverte à la divagation. Mais quand ces personnages retournent dans leur appartement, Leur vie quotidienne les rattrape et, leur divertissement s'estompe. Il n'y a jamais de véritable échappatoire malgré les efforts qu'on se tue à faire. De même, les héros coquiens subissent toujours plus ou moins une forme de désenchantement. Ils sont sujets à un manque de vivre qui ne peut être réprimé et qui doit s'accomplir au prix d'une inexorable violence physique et ou morale. D'autre part, leur existence se heurte à des réalités qui les dépassent et qui prennent une multitude de formes. Pour certains, c'est l'incompréhension et l'inaccessibilité de la culture officielle. On reconnaît, sans ces héros particuliers, la position contre-culturelle. Pour d'autres, il s'agit d'un système intangible aux dimensions totalitaires avec des agents aux esprits pollués. Mais peu importe la forme que prend la menace qui les surplombe, ces héros vivent dans un climat de destruction et sont les sujets d'une cruauté impitoyable qu'ils subissent ou qu'ils administrent. L'univers de Koch ne verse certainement pas dans la tendresse. Ainsi, dans les manuscrits, Durble se fait doubler par son acolyte Frank Meyer et voit l'œuvre sur laquelle il a à la fois tant et si peu travaillé finalement paraître dans une version pervertie. À la fin du roman, on fait donc le lancement de God Evil, bouquin inspiré de l'idée originale de Durble, mais remanié en fonction de ce que le tournage du film avait modifié, et publié en anglais ricain pour plus de commodité. Son œuvre est rattrapée, pervertie par l'industrie culturelle, avant que Durble finisse par sombrer dans les arts de la décadence. De même, on l'a vu tout à l'heure, Serge Marcus, le zomancien des pieds sur un disque de Marie Laforêt, se suicide juste au moment où les Malédictions du Taureau acceptent de publier son manuscrit. Mais si les héros coquins subissent cette violence-là, jamais ils ne s'y complaisent. Ces héros le sont au sens combatif, voire belliqueux du terme. Ce sont des personnages en lutte, dont les armes sont la folie, la détermination et le langage. Tous tendent vers une libération. Dans Broken Dove, roman jeunesse qui n'a jamais été publié, le narrateur oscille toujours entre la voix du personnage de Broken Dove, le personnage principal, et une voix omnisciente. Au début du roman, il médite sur l'étonnant et aboutissant de l'idée de liberté et conclut qu'aller combattre et mourir pour elle relève d'une mort inutile. Le moyen le plus sûr est alors de faire de la révolte le sens de la vie. Et je cite « Retomber à l'état primitif. Être révolté dans son adolescence. Se faire comme un fromage devient coulant. Ceci, chaque homme le fait. Mais si le plus simple, et oui, est d'être révolté à 20 ans et bourgeois à 40, selon l'expression populaire, le plus rare est de se dérégler par sa révolte pour ensuite non pas se re-régler ou s'allonger dans un confort reposant, le repos du guerrier, mais dans un sens de vie. Être insensé pour devenir sensé. Un fou peut être sensé, le tout ce qu'il y croit. Être Broken Dove pour devenir Broken Dove. » Néanmoins, ce manque de vivre ne se traduit pas toujours par des situations rocambolesques et des démonstrations de violence. Il se manifeste aussi sous d'autres formes, une, entre autres, qu'il m'apparaît nécessaire de mettre en lumière ici, puisqu'il s'agit d'un élément de l'œuvre d'Emmanuel Koch, qui est très peu abordé, et qu'il s'agit de ses chansons. Exception faite des 6 titres figurant sur le micro Sillon de Ginette Letondal, il n'existe malheureusement pas d'enregistrement de ces chansons-là dans le fond d'archives. Fort heureusement, il est toujours possible de les lire et d'en comprendre la signification. L'œuvre d'Emmanuel Koch est parsemée ici et là de références autobiographiques, faciles à discerner, lorsqu'on s'est attardé préalablement au récit de sa vie. Dans certaines de ses chansons, cependant, il se livre à une rare transparence, beaucoup plus prégnante, beaucoup plus ouverte. Je vous propose une lecture toute simple du texte qui donne son titre à cette présentation. Je suis le seul à être seul. J'ai la vertu qui flanche à flot dès qu'il s'agit de me foutre à l'eau, et je me sens l'âge d'un avorton quand je ne vois la guerre des nations. Tous mes diplômes se désagrègent à chaque hiver sous 6 pieds de neige, et ma colonne perd ses vertèbres quand mon cerveau perd son algèbre. Le syndicat de mes amours a perdu le sens de l'humour, la fin du monde s'en est allée à la première giboulée. Je suis le seul à être seul, je trime autant qu'un trisaïeul, je trace ma route à coups de tête, on me l'a pas encore soustraite. J'ai missionné des tonnes de mots, en jouant avec plus qu'il ne faut, audiovisualisant les hommes, les mêmes qui me consomment. J'ai démenti l'information qui m'accusait de concoction, et j'ai gardé mon âme d'enfant, des fois pour y pleurer dedans. Quand mes soleils alluniront, n'enterrez pas le vieux Huron. Mon âme d'Indien vaut mieux que deux. Ma vie pour vous, c'est de l'hébreu. J'ai la vertu qui flanche à flot dès qu'il s'agit de me foutre à l'eau. Je sais que je vais naviguer quand vous m'aurez incinéré. Éparpillé sur toutes les mers, la magnifique érablière, mes cendres seront bien saupoudrées sur votre sel déjà pollué. Je terminerai donc cette présentation en insistant sur le fait que ces archives existent et que je vous invite à venir les découvrir. L'ambivalence que l'œuvre d'Emmanuel Koch entretient à l'égard de l'institution culturelle, sa violence, son hermétisme ne devraient pas faire obstacle à la dimension ludique et à l'enthousiasme langagier dont elle fait preuve. C'est, ce me semble, ce qu'il y a à en retenir. Devant la méfiance que susciterait, devant la méfiance que son œuvre susciterait, Emmanuel Koch aurait de très bons mots à offrir en réponse, et c'est d'ailleurs à lui que je laisserai les mots de la fin.
Si je vous demandais de qualifier toutes ces choses que vous écrivez pour des gens qui n'ont jamais lu vos livres, c'est quoi? C'est violent? C'est tendre? Ben là, je pense à cette question-là parce que vous venez de me mettre dans le même pot. Enfin, toutes sortes de choses tellement différentes comme Love Story qui est tendre, qui est gentil, qui est un peu de rose. C'est quoi vos choses?
Moi, j'aimerais que les gens me lisent en n'essayant pas de comparer avec d'autres choses, en se disant, bon, ben, on va lire son bouquin parce que lui, c'est spécial ou... c'est un peu way out ce que je fais, mais c'est comprenable.
Comme disait Pierre, c'est un peu way out, mais est-ce que c'est comprenable pour tout le monde? Est-ce que ça ne fait pas appel à un groupe, un certain groupe?
Ben,
si on pense à vos amis, oui. On a l'impression, hein, c'est pas l'impression qu'on rentre dans un milieu là, qui est un petit peu particulier par rapport à...
Rentrez, il y a de la place pour tout le monde.
Je veux dire ça. Ben, vous aviez un ami qui est mort.
Entrez, il y a de la place pour tout le monde. Je vous remercie de votre écoute. J'aimerais, en passant, souligner la présence parmi nous de Mme Nathalie Boivin et de M. Stéphane Koch. Je vous laisserai la parole, si vous le désirez.
Ben, moi, je voulais juste te remercier infiniment, surtout, je te remercierais du geste déjà d'avoir fait ça, mais après avoir entendu la présentation, d'autant plus. Je trouve ça formidable, surtout d'avoir pu rééditer l'œuvre pour le 40e anniversaire en 2013. Ça a pris énormément d'années avant qu'un éditeur accepte de republier l'œuvre entière. Parce que je pense qu'il y a quand même matière, puis là je redécouvre à chaque fois qu'il y a des présentations comme ça, même si je connais bien son œuvre, mais je me dis, ben ça vaut la peine que ce soit accessible dans les archives, dans la plupart des bibliothèques on trouve ses livres. Il y a une page Facebook aussi que je vous invite à consulter. Lors du lancement aussi, on avait fait une présentation. Il y a le jeune poète Sean Cotton qui avait fait une lecture d'un extrait. J'avais fait une petite vidéo avec qui est sur la page Facebook. Il y a plein de documents qu'on peut consulter. Je pense que même le disque de Ginette Le Tondal, il y a quelqu'un qui l'a mis sur la toile.
Il se trouve également dans les archives.
OK. Donc, tout est disponible pour consulter, pour lire, pour... Si j'aurais fait le travail de passeur avec ma mère, avec les éditeurs, tout ça, mais tant mieux, parce que je pense qu'il y a matière à continuer d'allumer les gens. C'est ça que j'apprécie du travail que mon père a fait. C'est ça. D'ailleurs, merci à vos clips, M. Daniel, merci à vous. Puis, merci beaucoup, Clarence. C'est vraiment cool.
Ça fait plaisir.
J'ai aussi noté qu'il y a Ralph Elaboni oui. qui a écrit sa biographie. Qui a beaucoup contribué aussi au passage.
Oui, à la radicalisation.
Ouais. C'était très intéressant et très émouvant de revivre. Vous avez fait un très beau travail de recherche et vous nous avez donné un très bel aperçu de ce qu'il était, de ce qu'il pensait.
Merci. C'est difficile en même temps parce qu'il y a tellement de choses. C'est trois boîtes remplies à ras-bord.
1%.
Oui, c'est ça.
Ben, merci beaucoup. On espère que ça va permettre à plein de gens de découvrir son œuvre.
Je l'espère également. Avez-vous des questions, des discussions? L'espace est à vous.
Moi, j'en ai
une. Oui?
Qu'on en jasait, mais tu as parlé d'un lien avec Duchamp. Oui. On parlait de Gaudreau aussi. Je me demandais si dans les archives, il y avait quelque chose là-dessus, parce que je pense qu'ils étaient amis.
Ah oui, ils étaient...
Au niveau de l'idée du détournement du sens des mots, ben, du néologisme, qui
sont
propres à Gaudreau, bien entendu, mais il me semble qu'il y a vraiment quelque chose.
Ben oui, en fait, Claude Gauvreau est un grand ami d'Emmanuel Koch. Il lui a d'ailleurs écrit une chanson, il lui a écrit un poème, La corde qui se pendait au vent, qui se retrouve dans le tapuscrit de... Je sais pas si c'est surtout dans le tapuscrit. C'est dans les manuscrits d'En Va voir aussi, je me rappelle plus. Mais tout ça, ça se trouve également dans les rééditions et dans l'édition originale.
En plus de la réédition, on a réussi chez Poète de Brousse, ils ont accepté de Paris de publier tous ses poèmes. Mm-hmm. La plupart qui ont été écrits dans sa jeunesse à 17-18 ans.
Je pense entre autres à Manifeste de l'Unité Zéro qui se retrouve à la fin, d'autres textes qu'il a écrit bien avant.
Ses dessins sont formidables.
Oui.
Le recueil s'appelle L'Exquis
Cadavre,
donc plus facilement.
Ouais, à l'intérieur des archives, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la manière. Chacun de ces recueils-là qui ont été colligés dans l'Exquis Cadavre, on les retrouve dans leur forme, à défaut de dire primitive, disons originelle, disons, de projet tel que lui-même le pensait. Mais pour revenir à ta question initiale, sûr et certain qu'il y a une parenté inéluctable entre l'œuvre d'Emmanuel Koch et de celle de Claude Gauvreau. Quant à Régent Duchamp, en fait, je faisais surtout la référence, André et Nicole dans l'hiver de force, la contre-culture de consommation, ça transparaissait déjà dans... Comment?
Il y a une résonance,
c'est ça. Je pense qu'il y a un dialogue qui peut être effectué également entre les deux. À cette exception près, bien entendu, qu'André et Nicole, dans le roman de Duchamp, ils sont vraiment contre tout. Tandis que Emmanuel Koch, donc, il y a un côté plus critique, disons, peut-être plus nuancé. S'il n'y a pas d'autres questions, de commentaires, eh bien, je vous inviterai à faire vos curieux et à venir jeter un petit coup d'œil. Merci.